un anthropologue du terrain et c'est un homme qui a fait de la radio pendant des années, des conférences aussi. C'est un grand spécialiste de l'Amérique latine. Il s'appelle Maurice Eric Efti et il vient de faire paraître un livre. Bonsoir, monsieur. Un livre formidable qui s'appelle « Je change mon destin, thérapie et astrologie aztèque ». Aztèque avec un S puisqu'il s'agit de thérapie et aussi d'astrologie. Je sonne donc à sa porte pour évoquer ce livre qui est extraordinaire. Il y a un heurtoir aussi devant la porte, là. Je pourrais rentrer, mais je n'en ferai rien. Hello ?
Oui.
Comment ça va, Maurice ? Vous m'accueillez ?
Vous m'accueillez sur le numéro 7 pour rentrer.
D'accord, merci. Allez, hop, je rentre. Ah, sympa. Oui, un joli chat dans un couloir. Et puis, une volée d'escaliers extraordinaire entre deux murs, mais avec un toit et des combles au-dessus, et puis une couleur extraordinaire, un beige, un rose, des couleurs presque de maquillage, et ici déjà des objets ethnographiques mexicains, amérindiens et précolombiens pour certains. J'imagine, je monte dans le couloir. Vous êtes en haut de l'escalier. Dis donc, ça fait une tire, là. Il faut monter pour venir vous rejoindre. Maurice-Éric Efti, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, Daniel.
Comment allez-vous ?
Écoutez, aujourd'hui, très bien, cette nuit surtout.
Très bien. Alors, ce magnifique volume extraordinaire, un escalier rigolo en métal qui fleure l'ancienne pour aller à l'étage du dessus, j'imagine, la mezzanine.
Oui, ça c'est l'endroit où on dort, justement. Ça, c'est la fin de nuit, ça.
Ah, d'accord. Et puis ici, c'est extraordinaire, ce volume. Alors, il y a des canapés, un immense espace, une baie vitrée là-bas où on voit le paysage, on voit
le Léman. Oui, on aperçoit le Léman, Genève, avec le château qui est un peu allumé ce soir. Et puis, on aperçoit quand même Aubonne avec le petit château, là. J'aime bien cette...
Alors, on va les voir.
Mm-hmm.
D'accord. Mais alors, je vois ici, dans cette pièce étonnante, de briques et de brocs, mais alors d'un goût, d'un raffinement extraordinaire. Il y a une magnifique baignoire dans... décrivez-moi cet endroit, parce que c'est quand même relativement étrange et pas facile à raconter.
Avant de tout démolir, c'était mon atelier de peinture. Et puis, je trouvais que c'était un endroit qui servait à rien, finalement, parce que c'est sous une comble. Et puis, je me suis dit qu'avec un éclairage et quelques Velux, on pourrait en faire un jardin japonais. Alors, je suis arrivé avec quelques sacs de gravier, et puis ensuite il y a eu quelques petits éléments pour faire une mini terrasse, et puis une baignoire 18e qui était tellement légère que je me suis dit que ça vaudrait la peine de l'agrémenter d'un lavabo qui est un vieux bassin de granit, et puis d'en faire un coin du soir, justement. C'est un contrebas d'un salon, mais c'est sympathique des fois.
Ah, mais attendez, c'est juste génial, et d'autant plus qu'elle a une couleur cuivrée magnifique.
Ah, quand je suis dedans, c'est marrant. C'est vraiment la baignoire. Alors, curieusement, c'est...
Non assassiné, encore vivant.
Je préfère rester vivant encore quelques temps. Mais la forme paraît très inconfortable, et une fois qu'on est dedans, c'est l'endroit où on ne peut plus sortir.
Alors, si je comprends bien, vous avez fait de la peinture aussi, parce que j'ai manqué des éléments de votre biographie. Vous avez fait tellement de choses dans votre existence, elle est complète, elle est incroyable, mais vous avez tout fait en autodidacte ou non ?
Alors, une fois qu'on commence en autodidacte, tout à coup, on cherche par la pratique à chercher des techniques et puis des enseignements qui peuvent nous aider. Je veux dire, ça peut être faire de la gravure à Genève dans les ateliers qui sont faits pour ça. Ça peut être faire la bourse fédérale ou un cours artistique. Oui, non, mais ça vient seulement quand je trouve qu'il faut être un peu mieux qu'autodidacte.
Alors, votre connaissance de l'Amérique du Sud est immense. On part de la Bolivie jusqu'au Mexique. Un voyage d'ailleurs que j'ai fait quand j'avais 23 ans. Vous êtes resté crochet. Mais vous êtes parti pourquoi ?
Alors là, c'est assez complexe parce que je n'ai jamais pensé que je n'y partirais pas. Depuis l'école primaire, je sais que j'allais aller gravir les pyramides. J'étais Tintin dans l'âme dès le départ. Et...
Quoi, vous aussi, l'Inca ?
Alors, il y avait, je crois que le premier, c'est le Temple du Soleil et puis les 7 boules de cristal, c'est vrai. Mais c'était surtout une bande dessinée que m'avait offert une enseignante du petit village qui est à côté, la Clermont, et qui me l'avait donné, parce que je crois que j'avais eu un prix de chant ou déjà un prix de dessin. Et c'était une publicité pour les montres Mido. Et c'était les montres qui avaient été les premières montres étanches qu'on avait créées en Suisse et même peut-être au monde. Et pour le prouver, il fallait qu'elle aille dans des climats absolument impossibles. possible, où on supportait l'humidité, etc. Et ils avaient fait une bande dessinée en publicité sur les Mayas. C'est-à-dire qu'on voyait ce petit bonhomme Mido qui était devenu une sorte de robot métallique, c'était typiquement les années 50, et qui se baladait comme ça dans les jungles du Petén guatémaltèque, et on voyait à l'horizon, comme dans Tintin, une pyramide, comme dans Tintin les Picaros, là, un peu, hein. Et moi, ça m'avait complètement fasciné. J'ai commencé à demander des petits bouquins, puis ensuite des encyclopédies, puis ensuite des bouquins spécialisés.
Et aujourd'hui, vous êtes un spécialiste reconnu, un conférencier. Vous êtes quelqu'un qui a appris en plus par, alors on évoquera par quelle voie, à être un chaman, à connaître les traditions sacrées des Aztèques, des Mayas, etc.
Oui, alors c'est venu de façon très simple. C'est-à-dire que mon désir de partir au Mexique s'est concrétisé par une rencontre, il n'y a pas de hasard et c'est pas fortuit, avec un Mexicain de Genève qui était Stavenhagen, qui était là pour quelque temps au BIT. Puis ensuite, il m'a fait rencontrer, enfin, il m'a donné une lettre d'introduction auprès du grand spécialiste européen de l'époque, en tout cas francophone, qui était Jacques Soustelle, le ministre qui avait fait toutes ses thèses au Mexique, et qui m'a dit, mais écoute, il m'a tutoyé tout de suite d'ailleurs, il m'a dit, écoute, tu vas quand même pas faire tes études en Suisse, tu vas te retrouver au Sahara, tu vas te retrouver en Égypte, par rapport à ce qui existait à Genève ou à Neuchâtel. On dit, on vient d'ouvrir une école il y a quelques années à Mexico City, vas-y comme tu peux et inscris-toi à l'école d'anthropologie de Mexico. Alors pour moi, c'était simplement le fait d'y aller de façon plus économique. J'ai pris un bateau et en 2 mois et demi, je me suis retrouvé à Mexico.
Aïe, aïe, aïe. On va s'asseoir dans les canapés, si vous voulez bien. Oui, à choix, parce qu'il y en a environ une trentaine ici, de quoi asseoir au moins 30 personnes. Alors, vous devenez un spécialiste et vous écrivez ce livre qui s'appelle, aux éditions Favre, « Je change mon destin ». Alors, on va poser 2-3 questions, 2-3 jalons, parce que c'est très important. Le destin, moi, je croyais que c'était le parcours de la vie. On part, on arrive au bout, on meurt, le destin, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va changer ? On va rien changer du tout. On peut changer sa propre vie ou son propre destin. Le destin, c'est pas quelque chose qui est inscrit.
Alors le destin, dans l'idée précolombienne, est quelque chose d'inscrit, d'autant plus que c'est tellement inscrit qu'on vous le décrit au 4e jour de la naissance. C'est-à-dire qu'on annonce à vos parents, en tant que bébé, ce que vous étiez, c'est-à-dire vos origines génétiques à travers ce qu'on voit dans le thème qui permet de connaître papa et maman s'ils sont présents dans le thème.
Donc dans le thème du zodiaque vu au travers, oui, de la cosmogonie et de l'ensemble des planètes, on est d'accord?
C'est pas tellement en fonction des planètes. L'astrologie précolombienne et particulièrement aztèque, ce sont les énergies en fait. Qui sont créés un peu comme un Lego, comme un puzzle, et puis on va décrire ces petits morceaux d'énergie qui vont faire que on est créé, comme on est créé par son ADN, comme on est créé par ses gènes. Et en l'occurrence, on arrive à vraiment faire le portrait du fonctionnement de quelqu'un, même de façon prémonitoire, hein. C'est-à-dire que le chaman, le lecteur de destin, comme on l'appelait à l'époque précolombienne, on l'appelle encore comme ça chez les, il y a à peu près 6 millions d'Indiens, hein, qui continue à vivre à travers cette astrologie, et je dirais pas à y croire, mais comme on leur donne un nom, c'est-à-dire qu'on leur donne un chiffre et un nom, un peu comme on dirait bison futé, obligatoirement, comme on le faisait en Amérique du Nord, on porte un nom, mais il est en fonction du temps de naissance et du moment de naissance.
Et de la conception aussi.
Et de la conception, mais alors vous avez la conception, la naissance, et puis le jour même de la naissance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui viennent se mettre un peu comme on l'a dans notre propre astrologie, où on a un signe en fonction des mois ou des moments de l'année. Et là, ce puzzle se fait sur au minimum 11 ingrédients totalement différents, avec divinité, chiffres, régents secondaires. Et alors, petit à petit, on peut, par ce puzzle, savoir un peu de quoi est faite la personne. C'est-à-dire, faite en tant que fabrication, en tant que construction, si vous voulez. Donc, il y a le côté parental, le côté génétique. Et puis, en même temps, il y a déjà la possibilité de voir quel est le parcours si on ne fait rien, si on ne change rien à la destinée. Donc, si on ne bouge pas en soi, eh ben, c'est vrai qu'on va être influencé par ces énergies qui vont, en même temps que les énergies du moment, puisque c'est pas seulement un jour de naissance ou un jour de conception, mais c'est également le jour que nous vivons aujourd'hui. Donc chaque jour a une énergie différente pour le précolombien qui influence certains thèmes ou certaines personnes plus que d'autres.
Alors, on parle des Aztèques ici, mais en ayant lu votre livre, je m'aperçois que les Mayas sont très proches, que finalement, du nord au sud de l'Amérique du Sud, en passant par l'Amérique centrale, le golfe de Darien, etc., et toute cette région de dans le fond, de l'ossature de l'altiplano, des Andes, ces populations vivent à peu près la même magie, la même astrologie. Ça, c'est très bizarre parce qu'elles vivent pas toutes en même temps.
Non, alors c'est pas forcément la même astrologie, mais c'est la même origine que ce qui va donner l'astrologie. C'est-à-dire que si on prend vraiment l'historique rapide de l'Amérique, il y a ces populations qui vont venir de Sibérie ou par bateau, mais qui vont petit à petit, sur une trentaine de générations, couvrir le continent. Et ça se passe entre 25 000 et 10 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Et à partir de là, on se trouve dans une situation très étrange. C'est-à-dire qu'on a des nomades, des chasseurs, des cueilleurs, qui couvrent tout le continent, déjà à cette époque-là. Très rapidement. Mais en fait, ce qui va transformer véritablement l'Amérique, c'est le fait de devoir passer de ces cueilleurs-chasseurs aux premiers agriculteurs. Alors ceci ne se fait pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de la nature. C'est justement la fin de cette glaciation qui va transformer véritablement le système alimentaire de l'ensemble de ces nomades. Alors il y a une ligne qui est marquée et que tout le monde connaît, c'est le fameux Rio Grande, et qui fait la ligne entre les États-Unis et le Mexique aujourd'hui. Et vous savez que les peaux rouges, comme on les appelle, vont rester nomades dans le nord jusqu'aux Esquimaux, qui sont les derniers arrivés. Or ces gens-là vont pouvoir se nourrir encore après cette glaciation. Et j'en veux pour preuve que vous avez des millions de bisons qui vous permettent de transhumer et de les suivre pour vous nourrir. Tandis que dans le sud, tout disparaît. Même les chevaux, les petits chevaux préhistoriques, tout ce qui pouvait faire une alimentation ou des animaux de trait ou des possibilités domestiques, tout va disparaître. Donc en fait, on se retrouve avec quelques cerfs, trois lapins, un dindon, une abeille. Il n'y a pratiquement plus rien qui peut être domestiqué en Amérique précolombienne, si ce n'est quelques camélidés dans le sud qui vont donner les lamas, les alpagas, les guanacos.
Mais pas les vigognes qui, elles vont rester sauvages.
Les vigognes restent sauvages et on doit même se tenir la main pour les regrouper comme on le faisait à l'époque Inca. Mais en l'occurrence, au Mexique, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vraiment, une basse-cour, c'est trois dindons. Dans le sud, il y aura naturellement ce qu'on appelle les couillès, qui sont les
cobayes.
Les cobayes, oui, les cochons d'Inde, comme on les appelle, qui peuvent se parquer et qui permettent de se nourrir, mais il y a pratiquement rien sur le plan d'une réalité de chasseur. Et de cueilleur, le régime ayant changé, il faudra bien trouver une graminée ou quelque chose qui permette de nourrir l'ensemble de l'Amérique. Il y a d'abord le maïs, et puis ensuite il y aura naturellement la pomme de terre et d'autres éléments comme le haricot, les courges, le piment, mais une alimentation extrêmement basique finalement. Et ceci va quand même permettre une première implantation, des premières communautés qui se développent très certainement en Amazonie. Et c'est là où on commence à ritualiser certaines formulations chamaniques qui vont donner, les premiers éléments magiques et surtout la découverte très certainement déjà là en Amazonie de l'ayahuasca, de certaines herbes, de certains éléments. Plus haut dans les Andes, le San Pedro qui est un cactus, et puis au Mexique le peyote qui est un cactus dans le nord, les champignons dans la région de Oaxaca. Pourquoi est-ce que je vous cite cela? Parce que on va avoir tout à coup plusieurs milliers d'années où toutes les bases magico-religieuses vont être centrées sur la prise d'hallucinogènes. C'est-à-dire, l'hallucinogène, au départ, c'est certainement quelque chose de très énigmatique et qui a été mal étudié, certainement, je dis mal, parce qu'on l'a synthétisé en fin de compte, on pense au LSD par exemple, au XXe siècle, mais qu'on n'a jamais pris en compte ni la façon de le prendre, c'est-à-dire la préparation avant de le prendre, ni le mélange chimico-végétal que représente l'ensemble d'une seule plante. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a paru totalement différent. Je vous avoue que j'ai fait très peu d'essais avec le synthétique, mais par contre, tout ce qui est naturel me paraît totalement différent dans le fonctionnement lorsqu'on le vit avec un chaman ou en groupe.
Écoutez, Maurice, Eric et Efti, je vous regarde. Vous me faites peur, vous avez les yeux jaunes.
Ah, c'est très curieux parce que je crois que la première fois on me l'a dit de façon un peu impressionnante. Je connaissais déjà mon thème aztèque et je savais que j'étais Seth Jaguar. Et ça m'a beaucoup troublé quand un chaman avec qui j'ai beaucoup travaillé m'a regardé spontanément en me disant « Toi, tu ne peux être que jaguar, uniquement avec mes yeux noisettes. »
Mais ils ne sont pas noisettes, ils sont jaunes.
Oui, c'est vrai qu'ils peuvent être jaunes, selon la réflexion, et particulièrement la nuit.
Vous me faites peur. On écoute la grande Sophie.
T'es mon film, t'es mon bijou, t'es mon zoif, t'es mon hibou, t'es ma chance, t'es mon signe, t'es mon toit, t'es mon tout. Ma joie, ma forteresse, mon envie, t'es ma richesse, t'es ma voix, t'es ma ville, t'es mon chou, t'es mon île. T'es ma force, t'es mon héros, t'es mon swing, t'es mon joyau, t'es ma claque, mon déclic, t'es mon toit, t'es mon tic. T'es mon prince, mon hélico, mon armure, mon berlingot, t'es mon crack, t'es mon style, t'es ma droite, t'es ma pile. Il était une fois, si tu n'existes pas. T'es ma plage, mon élégance, t'es mon badge, mon arrogance, mon école, mon église, mon idole, ma banquise. T'es mon plaid, t'es mon mystère, mon soleil, mon univers, t'es montagne, t'es montagne, t'es mon calme, t'es mon culte.
C'était la grande Sophie, quand on parle de toi. Et on parle de lui, Maurice Eric Efti. Vous avez fait de la radio, vous avez raconté beaucoup de choses. Vous vous êtes ouvert facilement aux hallucinogènes et c'est pas trop difficile d'en parler. Est-ce qu'on est un drogué quand on a pratiqué les hallucinogènes pour l'introspection et rentrer dans la magie aztèque?
Jamais. C'est quelque chose de très étrange. Il y a une préparation, hein, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui précèdent. Si vous le faites vraiment dans le monde indigène, il y a des diètes, il y a des tabous, il y a toutes sortes de disciplines qui vous mettent déjà dans une formule d'attente méditative, introspective. On sait qu'on va rentrer dans un autre monde. Et il est vrai que la prise d'hallucinogène demande une préparation, non seulement celle-là, mais aussi le fait de se mettre dans une confiance totale. C'est quand même quelque chose dès que vous l'avez abordé, vous fait perdre votre réalité naturelle. Hein. Je veux dire, on part vraiment dans un au-delà assez particulier, c'est-à-dire à l'instant où...
Mais on n'y part pas seul.
Alors j'avoue que c'est peut-être la grande différence avec le côté contemporain des drogues. C'est que les drogues sont des dépendances parce qu'elles sont prises avec un but qui n'en est pas un. Or, lorsque vous le faites avec des hallucinogènes dans un système chamanique ou indigène, vous avez toujours dans la formulation le désir, et c'est, je pèse mes mots, le désir d'obtenir et de découvrir quelque chose qui vous est propre ou qui nous est propre si on est en commun. C'est-à-dire qu'on part vraiment faire un voyage de découverte.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous dites dans votre livre qu'au moment où le groupe ou une paire de personnes ou quelques-uns entrent en transe ou ont les hallucinations, ils ont tous les mêmes.
Là, je prendrai pas le terme de transe, mais d'hallucination, je vous l'accorde. Mais ce qui est peut-être la chose la plus impressionnante, c'est que lorsqu'on a ce lâcher-prise et qu'on le vit en commun, on remarque très vite que lorsqu'on a tout lâché, je me suis rendu compte très rapidement que ça n'était pas forcément mon imagination ou mes visions cérébrales personnelles qui étaient projetées à travers l'hallucination, mais que j'étais prise en main par quelque chose qui m'était entre guillemets étranger et commun en même temps.
Donc difficile à comprendre.
Oui, c'est-à-dire que je me rends compte que ça n'est pas quand vous rêvez et vous faites certaines relations dans vos songes ou dans vos cauchemars avec vos réalités du jour, etc. Dans l'hallucination, on est vraiment pris comme si tout à coup on vous faisait rentrer dans un film qui était à la fois le vôtre, mais qui est imposé par un réalisateur. Et le réalisateur, c'est la plante elle-même. Ça, c'est difficile à faire entendre à une oreille d'occidental. Mais lorsqu'on est vraiment dans une préparation complète et qu'on ne le fait pas, vous savez, je connais même des gens qui prennent cela avec des poudres. Je sais pas, l'ayahuasca est donnée juste à côté, à moins de 10 km d'ici, en week-end. Or, en week-end, c'est pas possible de prendre une plante qui demande une telle préparation. Je veux dire, la plante elle-même n'a plus le pouvoir ni la qualité qu'elle aurait lorsqu'on la prépare de façon tout à fait réglementaire au fond de l'Amazone ou dans l'état de Oaxaca ou au nord du Mexique.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce sont des plantes différentes, des lianes, en l'occurrence en Amazonie, des champignons dans certaines régions du Mexique, mais aussi le peyote, qui est un petit cactus. Et ces plantes hallucinogènes développent peut-être au travers de leur ADN des visions d'animaux qui sont des animaux locaux propres à ces régions. C'est absolument inouï, ça.
Alors ça, c'était une de mes grandes découvertes. Et je crois qu'on est très peu à l'avoir pratiqué de façon aussi largement amérindienne que moi. Je veux dire, je connais des vrais aficionados de l'ayahuasca, je connais des gens qui n'ont goûté que les champignons, je connais d'autres qui sont totalement peyotes, on en a même fait des religions aux États-Unis. Mais en l'occurrence, lorsqu'on pratique une dizaine d'hallucinogènes différents et de plantes différentes, des graines ou des cactus ou des champignons, ben, curieusement, on remarque effectivement, comme vous le disiez, que la plante s'est développée dans un univers régional, finalement. Une plante qui pousse dans les déserts du Mexique n'a strictement rien à voir avec un champignon des forêts pluviales de Oaxaca ou du milieu de l'Amazone pour l'ayahuasca. Donc, curieusement, je dirais que peut-être nos salades ont le même problème.
Elles ont de la mémoire? Elles savent qu'autour d'elles, il y a des chats et pas des jaguars?
Par exemple, je veux dire par là que je ne vois pas pourquoi vous auriez une plante endémique qui est là depuis des milliers d'années. Pourquoi est-ce que cette plante n'aurait pas une mémoire de milliers d'années d'endémie? En l'occurrence, ces plantes-là nous donnent, en tout cas pour le côté hallucinogène, des réponses qui font que je me retrouve dans un jardin zoologique ou dans un univers botanique, un jardin botanique, qui est vraiment à l'exactitude de la géographie locale. Et ça, la première fois où ça vous arrive, c'est assez curieux. C'est-à-dire que on le voit aussi, si vous le remarquez, lorsqu'on est archéologue ou ethnographe, on le remarque aussi dans la symbolique même des religions qui ont perduré ou qui ont existé ou qui sont nées dans ces différentes régions. Vous me direz, c'est normal, si j'ai un puma sous les yeux, je le prends comme modèle, si j'ai un jaguar sous les yeux, je le prends comme modèle. Mais bizarrement, la plante vous donne la même réponse. Alors, est-ce que c'est la plante qui vous donne le modèle ou est-ce que c'est le modèle local qui vous donne l'idée?
Alors, on commence par une question, je change mon destin. On n'en est pas encore à votre travail personnel aujourd'hui de consultant. Vous consultez des gens, vous les guérissez, vous êtes un thérapeute aussi. Et la thérapie aztèque et l'astrologie sont des choses très complexes. Mais on parlait de changer le destin. Alors, nous sommes en mesure de changer le destin via quoi? Via comment? Ces thérapies, ça fonctionne comment?
Alors, j'ai presque envie immédiatement de changer le mot de thérapie contre le mot de nettoyage. Parce que c'est vraiment ça l'idée.
La limpieza.
La limpieza, comme on le dit vraiment de façon courante en espagnol et de façon chamanique. Si je parle de nettoyage, c'est parce que finalement, vous vous rendez compte dans une vie que vous avez effectivement entaché ou placé un tas d'éléments qui peuvent être traumatiques ou gênants ou obstruants, limitatifs dans votre existence par des faits vécus qui sont devenus des schémas, qui sont devenus des mini-traumas ou des grands traumas, et que ces blocages finalement ressemblent à des ordures sympathiques. Or, lorsqu'on les transforme et qu'on va les visiter, eh bien, on arrive vraiment à s'en débarrasser. Alors, c'est une image à laquelle je n'avais pas vraiment pensé avant de vous le dire, mais il n'en reste pas moins vrai que tout ce qui nous obstrue par rapport à notre flux, par rapport à notre fonctionnement, et j'ai envie de dire par rapport à notre destinée, parce qu'au départ, la destinée telle qu'on la lit, selon l'astrologie, c'est une ordonnance. Elle nous donne l'exactitude de ce qui fait notre être et nos possibilités et voire nos impossibilités. On en a tous. On a génétiquement des impossibilités et on a épigénétiquement des impossibilités qui se sont créées à partir de notre gestation, juste à notre naissance, après notre naissance. Les premières choses vécues par un bébé peuvent être déterminantes pour toute sa vie. Et un enfant peut avoir des traumatismes qui se paraissent des fois extrêmement banals, mais qui vont le marquer et le freiner dans un tas de domaines. Et lorsque je dis changer une destinée, c'est ce que fait l'indigène avec l'hallucinogène, mais on va l'oublier maintenant, car l'hallucinogène l'a simplement permis de trouver la voie pour aller creuser et traverser ces traumatismes. C'est-à-dire, le changement de destinée, il est justement dans le fait que si vous acceptez ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire ces espèces de dragons locaux, qui peuvent être un jaguar, un aigle, etc., il n'y a pas que cela. Mais en même temps, vous pouvez très bien trouver des obstacles qui ressemblent à votre vécu. Et votre vécu, vous pouvez le transformer, ou je dirais le matérialiser. J'ai un examen impossible à passer la semaine prochaine, j'en fais une montagne. Ok, ah ben, c'est une montagne. Or, cette montagne, si petit à petit vous la virtualisez au départ, mais que vous la matérialisez petit à petit dans votre ressenti, elle va devenir vraiment rocheuse ou terreuse ou boue ou je ne sais quoi. C'est à vous de voir quelle est la matière que vous avez conçue à l'intérieur de vous pour créer votre obstacle. Et petit à petit, vous pouvez trouver une température, une texture réelle, et vous en faites petit à petit... Je dirais c'est plus qu'une matérialisation, c'est que grâce au fait de fermer les yeux et d'être en introspection comme on l'est par l'hallucination, on peut le faire sans hallucinatoire et aller découvrir vraiment l'importance de ce qui nous empêcherait quelque chose, par exemple, c'est un exemple. Et dès que vous l'avez totalement matérialisé, vous pouvez en chercher les différents sens.
On remonte comme les psys, on remonte jusque, je sais pas, au blocage de l'enfance. Ça ressemble à peu près aux mêmes choses, non?
Alors, c'est exactement la même chose, sinon que la méthode pour y aller est très différente. On le fait par les sons, on le fait par le goût, on le fait par l'odorat. C'est-à-dire, si je vous donne une matière qui est humide et qui ressemble à une gelée, et si je vous demande de la sentir et que vous l'avez visualisée, elle est vert fluo comme, je sais pas, du slim, et que je vous demande de mettre votre nez dedans, à aucun moment vous n'imaginez ce que vous allez ressentir. Et curieusement, vous pouvez me répondre goudron, comme vous pouvez me répondre fraise.
Des bois.
Pourquoi pas. Et à partir de là... Cette fraise des bois vous amène exactement dans un endroit de vie où vous étiez avec grand-papa en train de les cueillir dans la forêt, où vous pourriez vous retrouver dans un moment devant la maison où on asphaltait la rue. Or, ces moments-là que votre ressenti cellulaire, j'ai pas envie de dire cérébral, vous ramène à ce sentiment de vécu qu'il est, c'est-à-dire vous retrouvez vraiment quelque chose de tangible dans votre existence et d'historique, eh bien, vous allez retrouver exactement tous les états d'âme qui occupaient ce moment-là. Alors souvent, ça paraît étrange qu'on puisse avoir vécu un abandon total à l'heure du goudron ou un ressentiment de plaisir à l'heure des fraises, voyez-vous. Et pourtant, ces moments-là sont des moments clés qui vont vous permettre de retrouver exactement ce que vous devez vous-même non seulement recréer, mais développer, c'est-à-dire aller voir chaque état d'âme que vous avez vécu dans ce moment historique. Alors, vous allez dire, c'est pas forcément un traumatisme, mais ça va vous amener au traumatisme éventuel ou à l'endroit du blocage. Et ce blocage, curieusement, la nature vous fait ressentir à différents étages les cibles que vous avez déjà traversées plusieurs fois ou vous avez reproduites. Vous me suivez? En l'occurrence, on va voir la flèche de départ et c'est là qu'on va trouver la blessure qui, elle, est vraiment la coupable. La blessure est coupable et elle instrumentalise toutes les flèches qui vont venir ensuite dans l'existence et qui vont reproduire la même schématique jusqu'au présent que vous venez de commencer à travailler.
On écoute Bruce Springsteen.
Rise up, shepherd, rise up. Your flock is roaming far from the hill. Stars have faded, the sky is still. Angels are shouting glory and hallelujah.
We've been traveling over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground.
40 days and nights of rain washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock at them to higher ground. Flood waters rising in Canaan bound. Service come judgment day. For we cross that river wide, blood on our hands will come back on us twice.
Oh,
C'était Rocky Ground, Bruce Springsteen. On est toujours... Ben, on va pas changer de place, parce que cet immeuble, cette maison, habitée depuis 58 par vous, elle est simplement magnifique, elle est belle partout, mais on peut pas parler à la fois de la maison et parler de nos cellules, de nos âmes, et de ce que nous avons à en faire pour changer notre destin. Eh ben, c'est ça la grande problématique, on est bien d'accord, Maurice Efti. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs choses, et c'est vrai qu'on survole un tout petit peu. Votre livre raconte en exemple très parlant des cas tout à fait précis où on remonte et tous ces obstacles à la fois se liquéfient, s'imagine, se voit, se matérialise, et ces gens tout d'un coup, en une séance, mais il en faut peut-être des fois 10, 15 avant, tout d'un coup débloquent et vivent quoi ? Une autre vie, un autre destin, c'est quoi qui va changer ensuite par cette thérapie ?
Alors, quand on dit nettoyage, c'est vrai que si vous vous retrouvez avec un terrain nettoyé, obligatoirement, on retombe dans quelque chose qui était ainsi sur le plan d'origine.
Alors, neuf, mais pas innocent.
Naturellement innocent parce que neuf. C'est-à-dire, quand je dis innocent, c'est un terme difficile à entendre, mais vous me diriez, je vous vois venir, que l'enfant n'est pas forcément innocent et qu'on l'est pas forcément par rapport à un moment de sa vie, quel qu'il soit. Mais la spontanéité et le fonctionnement harmonieux, je dirais la sérénité que peut avoir l'innocent dont je parle, elle existe toujours à un certain moment de la vie.
Mais alors on fait quoi ? On est obligé de régresser pour avancer ?
C'est au-delà de la régression, c'est-à-dire le fait de traverser tout ce qui nous a empêchés d'avancer nous permet de repartir d'un lieu où nous sommes coulants, où nous sommes naturellement avançants. Je vais le dire autrement. Tout à l'heure, je parlais de cette flèche qui en fait touche une blessure qui est totalement coupable. Lorsqu'on est coupé de quelque chose par cette blessure qui, elle, va instrumentaliser tout cela, eh bien, il est vrai que si vous traversez cette blessure et que vous vous retrouvez juste avant la blessure, quelques secondes avant d'avoir été blessé, vous êtes naturellement dans un état totalement différent. Et si vous pouvez retrouver cet état, le revivre à l'intérieur de vous, par la joie, par la sérénité, par des matières et des températures qui sont chaudes, qui sont totalement... On sent souvent, dans la description de la personne qui arrive à ce stade-là, quelque chose qui ressemble à une lave chaude, à quelque chose qui est vraiment très très vivant. Et là, la personne vivant cela, elle peut vraiment le transposer dans son présent. C'est-à-dire, c'est comme un catalyseur qui va changer le précipité de toute une existence. Or, un précipité peut être changé par un catalyseur et devenir une matière totalement différente. Et la façon de vivre de la personne à partir de là est révolutionnaire. Et si je dis révolutionnaire, c'est qu'elle est revenue au principe même du début d'une révolution. C'est-à-dire, une révolution n'est qu'un circuit sur soi-même.
Maurice Efti, vous êtes un médecin ? Un thérapeute, un quoi? Parce que un autodidacte de toute façon, mais un aztèque, un vrai chaman. Vous êtes qui là au milieu? Alors, vous aidez à accoucher les autres de leurs pleurs et de leurs traumas?
Alors je dirais que je suis un simple praticien et que je n'ai qu'expérimenté.
Et vous avez le droit?
Je le prends. Dans la mesure où 30 ans de théorie anthropologique et de travaux tels que je les ai faits m'amènent à remarquer qu'il existe sur cette planète un pourcentage bien plus élevé de personnes qui fonctionnent avec des nettoyages ou des thérapies, puisque je n'ai aucune honte à utiliser ce terme, qui sont aussi efficaces que celles que nous inventons depuis quelques décennies ou quelques siècles. Et ce qui est fantastique, c'est que ce sont les techniques de base ou la croyance qui en fait la différence. Mais il est vrai que le résultat tel que nous le redécouvrons par les médecines parallèles ou par les fonctions telles que ces gens-là les ont utilisées donne des résultats qui sont vraiment des fois assez impressionnants.
Alors vous n'êtes pas un sorcier, parce qu'il faut quand même dire une chose assez précise, c'est que vous avez souffert il y a une quinzaine d'années d'un cancer, que vous avez subi tous les traitements chimio, machin, etc., qu'on est obligé de suivre ici, quand on vit ici. Mais qu'entre deux, vous alliez au Mexique?
Oui, alors d'abord, j'ai accepté les traitements, ce qui est différent. Je n'ai pas pris ça comme une obligation. Et le simple fait d'avoir eu ces 30 ans de théorie à travers tout ce que j'avais vécu sur le plan chamanique, alors j'observais la chose. je dis assez fréquemment que je me regardais être. Mais à partir du moment où vous êtes totalement concerné dans votre corps, vous vous dites, ce serait peut-être intéressant de connaître l'origine de ce que j'ai mis en place. Parce qu'après tout, c'est peut-être plus intéressant de se laisser pousser par la santé plutôt que de lutter contre la maladie. Et là, je crois que c'est ce genre de conversion. Je vous dirais que c'est un dessin de ma fille. Lorsque j'ai attrapé mon cancer et que j'ai pris conscience de la possibilité vraiment morbide et mortelle de l'histoire, qu'elle-même étant encore très jeune, m'a fait un simple dessin où elle avait vraiment reproduit des espèces de enzymes gloutons comme ça, très bagarreurs, et il y avait une lutte entre les cellules saines et les cellules malignes. C'était un peu son scénario à sa façon enzyme glouton. Et par-dessus, elle avait mis un bandeau où elle avait marqué « Victoire ». Et je me suis dit, mais si ma fille fonctionne avec un système aussi agressif pour traiter ma maladie, c'est que j'ai dû lui enseigner cette forme agressive. C'est-à-dire que pour qu'elle ait cette notion de ce qu'est la maladie, en pensant que le seul moyen de lutter contre une maladie, c'est justement une bagarre et une guerre, je vais la perdre. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que ça m'a créé une forme de conversion étrange qui a fait que je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher d'abord l'origine de ce qui a mis ces cellules qui, toutes au départ, sont saines, à devenir malignes? Est-ce que ce sera peut-être pas plus intéressant de faire comprendre aux malignes qu'elles peuvent reprendre leur place et faire entendre aux malignes qu'elles ont peut-être autre chose à faire que d'augmenter leur volume pour me faire mourir?
Maurice Hefti, quand on connaît l'origine de son mal, on en guérit déjà?
Quand on a 42 de fièvre, on est déjà guéri de sa grippe. C'est-à-dire lorsqu'on accepte totalement l'état qu'on a créé, il est vrai qu'on est déjà beaucoup plus proche de la guérison que d'une suite négative de la maladie. Et à partir de là, il faut oser aller traverser le cauchemar. C'est-à-dire, je donne toujours cette idée d'un millefeuille qu'on doit prendre tranche par tranche. Le meilleur exemple, c'est peut-être le soufflet d'accordéon. Il y a un moment donné dans la vie où certaines choses se sont bloquées, c'est vous qui le disiez tout à l'heure, et un soufflet d'accordéon fermé, il contient des choses qu'on n'a jamais réglées. Et lorsque vous prenez le soin de le déplier et d'aller vivre tout ce qui n'a pas été vécu entre les tranches de notre soufflet d'accordéon, eh bien ce sont des états d'âme, ça peut être une tristesse, ça peut être une angoisse, ça peut être une colère. Or si je vous parle de tristesse maintenant, là vous nous écoutez, je pense aux auditeurs aussi, où est la tristesse, votre dernière tristesse? Elle est dans votre poitrine. Vous pouvez en faire une matière. Elle est dure, elle est molle, elle est gazeuse, elle est liquide. Ah ouais? Les tristesses peuvent avoir, c'est oui, les éléments ne sont que des éléments. Or, chacun de nous crée son état d'âme selon la matière qu'il ressent. Mais je pourrais vous parler de votre angoisse. Ah tiens, j'ai la boule à l'estomac. Oui, mais elle peut être dure, elle peut être molle. Elle est en général plutôt ferme. Mais elle pourrait être gazeuse ou liquide toujours. Si je vous parle de votre colère, mais c'est pratiquement spontané. Je vous demande d'où elle vient, quelle est sa couleur, quelle est sa température. Alors, il y en a des glacées, il y en a des bouillantes, il y en a des tièdes, il y en a des chaudes. Et la personne, tout à coup, vous donne une teinte et vous lui demandez d'où est-ce qu'elle démarre et où est-ce qu'elle va. Alors, elle peut rester inerte, ça fait 40 ans qu'elle est là. Ou alors, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe et la personne sent qu'elle évolue, qu'elle bouge, elle vient de prendre conscience que ce qu'elle n'a pas pu vivre en tant qu'enfant, elle le vit dans mon fauteuil en tant qu'adulte pour l'enfant. Vous me suivez? Et là, cette colère évolue dans le corps et tout à coup elle s'arrête à la gorge ou elle est vomie ou elle explose complètement. Mais si je demande le son de cette colère dans la gorge, est-ce que vous croyez qu'on entendra le murmure des oiseaux ou que ça va être un cri épouvantable et enfin quelque chose qui s'exprime? Oui, c'est quelque chose que j'aurais pas exprimé devant ma mère, mon père, mon voisin, mon agresseur ou je ne sais qui.
Mais devant vous, oui.
Dans le fauteuil, oui. La personne a les yeux fermés et elle est complètement dans son histoire. Et revivant vraiment la texture, les états d'âme de son vécu de l'époque, mais ça peut être dans le ventre d'une mère. Vous pouvez avoir vécu quelque chose d'incroyable quand maman est tombée dans l'escalier ou quand vous avez entendu une phrase terrible à votre propos, mais ça vous atteint exactement comme si je vous plantais un poignard dans le ventre ou que je vous lançais une pointe d'acier dans l'oreille gauche ou l'oreille droite. Donc à l'instant où on matérialise ces mots, alors, vous voyez bien que c'est très loin de la psychanalyse ou du système psychiatrique, mais à l'instant où on arrive vraiment à se mettre une matière, quelle qu'elle soit, de façon auditive ou de façon sensible, eh bien, curieusement, on peut commencer à voir ce qui s'est vraiment passé dans les états d'âme. Et je donne toujours l'exemple du cauchemar. Lorsque vous traversez un cauchemar, C'est un peu comme si vous retrouviez quelque chose qui était avant le cauchemar. Alors c'est l'avant qui est important. Et c'est cet avant qu'on peut mettre vraiment en circulation dans un présent qui va créer un futur qui dure.
Maurice Eric Kefti, alors qui vous a guéri de votre cancer? C'est d'en connaître l'origine grâce au chamanisme, à l'astrologie, à tous ces éléments qui sont autour de vous et de votre connaissance, ou c'est l'oncologue qui vous a soigné?
Alors, je suis tombé sur deux types d'oncologues. J'ai rencontré des gens qui étaient intelligents d'abord, j'ai eu de la chance. Et je dois dire que particulièrement à Lausanne, par rapport à Genève, j'ai eu certains contacts très différents. Et lorsque la personne a pu saisir que j'avais le désir de faire un ami, un allié de mes médicaments, de mes rayons, de mes transplants de cellules, de tout ce qui était censé bombarder mon corps pour lui faire du bien, mais bizarrement, on les attaque quand même avec des choses qui sont un peu nocives, là, il y a quelque chose de particulier qui se passe déjà dans le contact. Parce qu'en général, plutôt que de fonctionner sur la crainte de ce qu'on va prendre qui pourrait nous faire du mal en nous faisant du bien, si vraiment on arrive à passer par le stade de l'allié, ben ça veut dire qu'en contrepoint, quand je faisais mes voyages au Mexique ou que je faisais mes démarches pour aller voir quelle était l'origine, ben je travaillais sur deux tableaux finalement. Et je dirais que c'est les deux tableaux réunis. Je suis pour la médecine et je suis pour le fait de savoir ce que je me suis fait pour être malade.
Ouf, on écoute une chanson de Gainsbourg d'il y a longtemps, Black Trombone, c'était les années 50. Elle était reprise par La Negra, c'est-à-dire des filles qui jouent les chansons des garçons.
Black Trombone, mon tourne, les trombones, c'est joli. Bajoune, mon ami, Black Trombone, mon manteau, autochtone de la nuit, dit partout la mignonne.
C'était Black Trombone, La Negra. Dernière partie, ligne droite, avant minuit, avec Maurice-Éric Kefti, avec cette baie vitrée magnifique qui donne vraisemblablement sur des vignes en bas, au-dessous de Yan, là.
Oui, il y a toute une série de... On est vraiment en terrain agricole. Là, on était en bordure du village. Vous savez, Yan était une sorte de vieux camp, un camp romain, finalement. C'est supposé être cela. Donc, on a vraiment une sorte de cercle de maisons et les vigneronnes sont naturellement du côté de la vigne. Et en contrebas, vous avez tout un vallonnement qui va jusqu'à Aubonne et ensuite au lac.
Alors, ce qui est étonnant, devant la fenêtre, il y a un couloir d'eau qui circule. On est au deuxième ou troisième étage. Et cette eau, avec des poissons rouges dedans, c'est un bis, hein, comme en Valais, si on veut. Et il descend, il fait le tour de la maison et de la propriété. Il redescend, il fait une mare et il remonte.
Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ici, vous avez vraiment ce que vous appelez le bis, mais c'était une ancienne jardinière que j'ai bien imperméabilisée. Et puis, c'est vrai que, comme j'aime l'eau, eh bien, en bas, on a la suite un peu comme en Andalousie qui va jusqu'à un étang, c'est vrai.
C'est pas la même.
C'est pas exactement la même, non, mais c'est un système de pompe qui fait que l'ensemble se retrouve récupéré et est un peu plus écologique. Ça plaît beaucoup aux petites bestioles, particulièrement aux tritons.
Alors, cette introspection que vous préconisez et qui est une véritable... Ben, c'est une bible, ce livre, « Je change mon destin », parce qu'il y a des cas, et puis on se rend compte, on descend avec les êtres à l'intérieur d'eux-mêmes en les lisant, en comprenant ce que vous nous décrivez d'eux. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de... Comment dire ? Ça fait peur. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de guérir, excusez-moi, je fais partie de ceux-là,
oui,
j'ai pas vraiment envie d'aller pleurer un bon coup ou pendant des heures chez vous. On peut se passer de pleurs malgré tout, puis guérir ?
C'est comme un conte de fées. Un conte de fées est fait pour traverser les dragons et aller trouver le trésor. Donc votre corps vit exactement comme dans un conte de fées. Alors, il y a le cauchemar de l'ogre, de la sorcière, du méchant dragon.
Papy, j'ai peur.
Voilà, eh ben c'est bien. Et une fois que tu as pleuré, tu découvres à l'autre bout, comme vous le feriez, cette qualité de ce que vous méritez. Or, ce mérite, il est simplement caché derrière le dragon. Or...
Alors donc, quand il y a des échecs, c'est forcément la faute du patient, du consulté, et pas de vous.
Ben, l'échec, c'est le fondement de la réussite, non ?
Non, oui, cet oxymore est un peu agaçant. Non, on a envie de se dire qu'on a le droit de refuser aussi. Mais si on veut se soigner, on est vraiment obligé de passer par là.
Si on veut se soigner, on est obligé de passer par là. Parce que, comme je vous dis, si on se laisse pousser par cette forme de nettoyage et de guérison, eh bien, c'est vrai que c'est le meilleur moyen d'éliminer tout ce qui est négatif.
Mais Maurice Efti, on est tous malades ou pas ?
Oh, je crois que par rapport à ce que je vois dans mon fauteuil, on est tous malades pour être bien.
Attendez, je ne vous suis pas. On est tous un peu malades ou capables de guérir ?
On est tous malades pour être bien, c'est-à-dire que lorsqu'on accepte les parties sombres ou les parties que nous avons vécues comme expérience épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui nous a été donné et transformé à partir de notre naissance ou même avant, je crois que tout le monde a passé dans la moulinette des croyances, dans la moulinette de l'éducation, dans la moulinette de l'agression, et tout ceci nous marque, et il suffit effectivement d'accepter ces parts-là, y compris dans l'actualité, parce que c'est l'actualité qui le réveille. Pourquoi est-ce que votre patron vous fait un sale coup ? Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais si, parce que la façon de le prendre est naturellement différente d'un sujet à l'autre. Or, il est vrai que l'optimiste ou celui qui n'a pas vécu ce type d'agression ne le prendra pas du tout de la même manière que celui qui est blessé et qui a déjà envie de pleurer ou qui sent que c'est du mobbing. Or, lorsqu'on travaille là-dessus, on va retrouver le mobbing de base, si j'ose le dire. Or, ce mobbing de base, il n'a jamais été traité par l'enfant.
Il y a des gens qui restent complètement bloqués et qui n'iront jamais plus loin, qui se refusent absolument à l'introspection, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter juste en dessous de la gorge et ne pas aller au fond de leur âme, de leur tripe. Elles refuseront dans le fond de guérir.
C'est assez génial à vivre. Je veux dire, les personnes qui refusent et qui pourtant, de façon presque intuitives, savent qu'elles doivent passer par le refus. C'est-à-dire qu'en même temps, si elles viennent, c'est qu'elles viennent travailler sur leur refus. Je veux dire...
Mais elles vont continuer de travailler tout le temps sur leur refus et refuser ?
Non, parce que... Alors, je vous avoue qu'il m'est arrivé d'avoir un ou deux cas que j'appelle totalement impossibles. Il y a des gens qui, par leur fonction d'éducation et leur système, ont une imperméabilité totale des sens. Alors, c'est assez fréquent. Il y a pratiquement ce que j'appellerais une personne sur 10 que j'appelle désincarnée.
Mais c'est pas de la sottise.
Non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont simplement dû trouver, lors d'un traumatisme suffisamment important, un moyen de couper les sensations.
Donc ils ont coupé le courant.
Ils ont coupé le courant, et ayant coupé ce courant, il faut aller les remettre sur terre. Je veux dire, j'ai des cas où on a l'impression que les gens sont des anges dans la vie de tous les jours. Donc, dès qu'il leur arrive un pépin, ils fonctionnent comme des anges. C'est-à-dire qu'ils coupent véritablement la communication avec la douleur. Or, c'est très pratique dans la mesure où ça vous permet de vivre de façon assez commode, si vous voulez, mais ces gens sont conscients qu'ils ne vivent pas la vie.
Ils sont faux ?
Non, c'est pas être faux, c'est être simplement ailleurs. Si vous n'êtes pas terrien, c'est que vous êtes déjà entre ce monde et un autre monde. Or, assis sur un nuage dans la vie courante, c'est peut-être pratique, mais en même temps, ça n'a pas le goût de la vie. Et ces gens-là s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une sorte de manque d'appétit aux choses qui sont vitales. L'amour dont je parlais tout à l'heure, la dégustation des sens de la joie, sont aussi enlevés que le serait la douleur ou l'angoisse.
on va être obligé de se quitter, vous rendez compte, c'est vraiment frustrant. Hein. Et on n'a pas bougé de ce canapé, mais en même temps, on est allé en Amérique du Sud. J'ai adoré ce voyage et on a envie de vous suivre. Et on se dit, ben oui, il y a des portes qui nous seront proposées, à nous de traverser le couloir, d'aller chercher ces portes ou de ne pas les ouvrir.
C'est vrai, et puis je crois qu'en donnant une vingtaine ou une trentaine d'exemples, ça permet de voir à quel point les gens ont tous cette capacité d'ouvrir sur un autre monde.
On écoute Mi Kung Fu, ce sont des Suisses, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Do what you do. Merci Maurice Eric Efti. Je vous rappelle, vous auditeurs, ce titre de livre « Je change mon destin », ça peut être un tournant pour vous. « Thérapie et astrologie aztèque » paru chez Fabre. Merci pour cette soirée.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Yverdon-Mora, un véhicule en panne provoque des ralentissements entre Payerne et Avenches en direction de Mora.
Il est minuit et au-delà des infos, c'est Aqua Concert avec Patrick Lapp et Jean-Charles Simon. Très bonne nuit.